Jungle Fight sur Radio Monaco avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Alors attention mesdames et messieurs, vous allez bien, vous êtes en forme tous là, ouais, hein, je vois, il y a du sourire partout, il fait beau, il fait chaud et on ira à la plage après, hein. Donc c'est aujourd'hui, Radio Monaco, Jungle Fight, bien sûr, première émission de radio d'action, prévention et de lutte contre le sida, présidée et animée par la princesse Stéphanie. Alors ce soir dans les studios, Hervé Esmaec, salut mon cher
bonsoir,
Hervé.
Bonsoir Malher, bonsoir tout le monde.
Tu vas bien?
Très bien.
On a besoin de toi ce soir parce que...
Plus que d'habitude.
Il n'est pas là, Bruno Taillant, donc tu et vas oui. faire coordinateur, toubib, massage, relaxation, sauna. Tu vas bien, hein?
Oui, je vais très bien.
Il va très bien, voilà. Oui. Et puis Franck Herman, excellent Franck Herman, avec un nouveau look, t'as vu ça?
Hey, bonjour Malher, bonjour à tous.
On dirait un vieux chaman, voilà. Franck, ce soir, journaliste d'investigation à Radio Monaco. On va revenir sur le dépistage du VIH via un smartphone, hein. Je crois que ça marche, non? T'as essayé?
Écoutez, c'est une nouveauté Malher, après les autotests qui sont encore un peu en rodage.
On va en reparler tout à l'heure, on dit juste ça.
C'est une invention québécoise.
Ah bah tu vois comme quoi. Alors on va parler de ça, il y a aussi, dès 2016, des homos pourront donner leur sang, à une seule condition. Très très gênante, hein.
Ah bah oui,
c'est très très chiant même, je dirais. Voilà.
Pas l'air.
C'est oui.
Vous le dites, la condition.
Faut pas faire l'amour pendant un an.
12 mois, voilà.
Comment c'est possible?
Bien joué.
Faut
faire un nœud.
Puis on reviendra sur Truvada, cette pilule qui protège du SIDA à 95-98%. Et qui est testé à Paris en ce moment. Elle est toujours pas en vente, hein.
Non, c'est testé à Paris et c'est depuis hier, tenez justement.
Ça coûte très cher. Et la capote vaut toujours 50 centimes
d'euros. Elle est testée. Enfin, on reviendra dessus. C'est pas tout à fait qu'elle est testée. Elle est testée depuis sur une étude hyper-gay depuis plusieurs mois.
Et aux États-Unis.
À Paris, c'est accessible dans un hôpital où un médecin a décidé de la rendre accessible.
Ah, d'accord.
Ce n'est pas un test.
D'accord.
Il y a déjà eu des études sur le Truvada en France.
Ouais. Et puis, on verra aussi guérir du sida grâce au laser. Expérience, pourquoi pas. Et tout est bon à prendre, hein.
Avec la sortie de Star Wars.
Ah, bah oui, attends, dis donc. Ah oui, Star Wars. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Voilà, les amis, bien sûr. Et nos invités, les élèves du lycée François d'Assise, Nicolas Barraille. Eh, vous êtes là? Ah ouais, non, ils sont pas mal, soeur, hein.
Oui, il y a du monde, oui.
Bon, je leur ai dit de poser des questions de jeunes ce soir. Ce serait peut-être mieux.
Ça te changera.
Pourquoi? Non, monsieur. La dernière fois, ouais. Et puis, on a trois rendez-vous. Fighters Monaco, hein.
Trois rendez-vous importants. Enfin, quatre, mais surtout trois publics.
Ouais.
Que Elodie nous présentera.
Tout à l'heure, ouais.
Oui.
Un rendez-vous très important. Ouais.
Oui, important qui à la fois touche la solidarité et la prévention.
Exactement, à la veille de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, le 1er décembre.
Oui, nous avons une semaine très chargée avant le 1er décembre.
Exactement. Et puis, on a Laura qui est avec nous. Ça va Laura, tu vas bien?
Bonjour
Laura.
Va,
Laura, maître de conférence. Hein.
Oui, maître de conférence en sociologie à la faculté des sciences du sport de Nice.
C'est impressionnant.
Attention, il y a du lourd. Je suis très impressionné. Il va falloir qu'elle m'explique ce qu'elle fait.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie.
Voilà, un Jungle Fight exceptionnel, puisque nous sommes dans quelques jours, il y aura la journée mondiale de lutte contre le sida, hein,
le 1er décembre.
Le but, c'est de récolter de l'argent, bien sûr.
Bien entendu, puisque nous avons notre vente aux enchères traditionnelle le 1er décembre.
Et ça, c'est quoi, 50% du budget de Fighters Monaco, la vente aux enchères?
À peu près. Et c'est sur invitation, bien entendu.
Donc nous, je suis pas invité, je suppose, comme d'hab.
Si tu veux acheter une œuvre, tu peux.
Ah, tu n'as pas le catalogue des...
Alors, Elodie t'en parlera.
Elodie nous en parle. Oui, il y avait un très beau catalogue l'année dernière.
Et bien,
je l'ai gardé.
Encore plus beau.
Voilà. Et comme je suis radin, j'ai mis toutes les images sur le mur chez moi.
Écoute, s'il y en a une très belle, je pense qu'il te plaira.
D'accord, tu me diras ça tout à l'heure.
Plusieurs, il y a des photographies. Enfin, on en parlera avec Elodie.
Très beau catalogue, les amis. Ah oui, il faut voir ça. Nous accueillons Laura Schuft, maître de conférence. Et Laura, tu viens d'évoquer la recherche sur VIH, activité physique et fatigue, tout ça en même temps.
Tout à fait.
Et donc, tu as interviewé des affiliés de Fighters Monaco.
Voilà, on avait fait passer des questionnaires, on a fait des entretiens.
Ouais.
Et en plus, j'ai assisté au cours de yoga à Fighters.
Et tout à l'heure, Laura est venue avec des collègues pour commencer à présenter les premiers résultats de l'enquête. Puisqu'il y avait donc 14 personnes affiliées de l'association qui étaient là pour échanger. Comment tu as trouvé l'impact, l'intérêt des personnes?
Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment super. Les personnes étaient très intéressées par les résultats. Et surtout pour nous aussi, on a pu avoir un retour intéressant sur les premières pistes d'analyse.
Ouais. Et en gros, ils ont exprimé quoi, les affiliés? Qu'est-ce qui revenait souvent chez eux?
Ah, il y a plein de choses sur la fatigue. En fait, la fatigue, c'est une des premières plaintes des personnes vivant avec le VIH, un symptôme assez commun. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de prise en charge. On ne sait pas trop, les médecins, ils savent pas, on ne comprend pas, on ne sait pas trop comment le prendre en charge. Donc ça, c'est revenu souvent.
On ne sait pas pourquoi ils sont fatigués.
Ben, c'est-à-dire que c'est très difficile d'expliquer la fatigue et de dire quel est le degré de fatigue. Et donc, ce que disent les personnes, ils l'ont redit cet après-midi, c'est que certains médecins sont dépourvus. Et on a eu même un témoignage, enfin même deux personnes, qui ont dit, quand ils disent à leur médecin « je suis fatigué », le médecin répond « moi aussi je suis fatigué ».
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc, est-ce que c'est dû au VIH ou pas? Est-ce que, alors, c'est ce que l'étude
morale aussi.
Il y a le vieillissement, il y a plein de choses qui entrent en compte.
Voilà, on voit par exemple une corrélation avec les vieillissements, avec l'ancienneté du diagnostic. Mais à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, ceux qui sont diagnostiqués plus récemment sont plus fatigués.
La solitude aussi, non?
Oui, c'est sûr que des études précédentes ont montré que la solitude et la dépression sont parmi les plus fortes corrélations avec...
Alors que maintenant, on a stabilisé le sida, on peut vivre très bien avec.
Oui. Le VIH révèle une certaine fatigue, c'est évident, mais que dans notre société, est-ce que de dire « je suis fatigué », c'est très bien? Est-ce que ça passe bien? Je n'en suis pas sûr. Donc, on l'a vu dans votre enquête aussi, c'est que les personnes qui parlent de leur VIH, qui ont fait le choix de le dire dans l'entourage, expriment plus leur fatigue.
Oui, tout à fait. Ouais, ça va main dans la main. On le révèle, on en parle seulement si les personnes autour sont au courant.
Mais dis-moi, Laura, c'est la maladie du siècle. Hein. Il y a beaucoup de gens fatigués, maintenant ils ne sont pas malades en plus. Hein. Mais non, c'est pas ça.
Mais c'est une plainte assez commune de dire...
Surtout les Français, non?
C'est-à-dire que c'est un peu délégitimé.
Pas du tout.
Parce que tout le monde est fatigué, voilà, donc c'est une frustration.
C'est vrai, c'est beaucoup de temps. J'ai l'impression que c'est...
Il y avait quelque chose d'intéressant dans la démarche de Laura quand elle est venue nous présenter donc son enquête. Elle a donc interviewé, comme tu l'as dit tout à l'heure, des affiliés. Mais en plus, elle a participé aux ateliers de yoga qui sont hebdomadaires à l'association. Elle a été, bien entendu, très bien accueillie et très bien intégrée dans le groupe. Et ça m'intéresse. Pourquoi d'abord tu as souhaité intégrer les groupes de yoga et qu'est-ce que tu pourrais en dire?
Moi, c'était pour avoir l'expérience d'une activité physique, parce que nous, on étudie fatigue et activité physique, et savoir comment les gens la vivaient et quel était le lien avec une fatigue exprimée. Et c'est clair que c'était très bien perçu comme quelque chose qui réduit la fatigue, mais je pense que c'est un ensemble des choses. Il y a aussi toute l'ambiance de la Faïté de Monaco qui est un lieu de détente, de convivialité qui fait qu'il y a une énergie positive qui en ressort.
Tu vas revenir? Tu vas recommencer une séance? Tu vas revenir les voir?
J'aimerais bien. Le problème, c'est les timings, mais j'adorerais continuer.
Mais je pense que aussi, par rapport à ce que tu dis, le lieu d'accueil, quand une personne peut exprimer déjà qu'elle est fatiguée, déjà, je pense que ça contribue à pouvoir en faire quelque chose et peut-être justement aller sur ce que vous préconisez. Avoir une activité physique.
Non, c'était une bonne conclusion.
Merci, ma chère Laura. On peut l'applaudir.
Merci,
hein. Ouais, merci Laura. À très bientôt, j'espère.
Merci.
Salut, mon petit Franck. Je voulais savoir si tu as parlé du dépistage du VIH via un smartphone. On en avait parlé, mais c'est...
Oui, effectivement.
C'est pipo ou c'est vrai, ça?
Bah, écoutez, Malher, c'est toujours un petit peu des essais qui sont tentés un petit peu à travers le monde. Alors, cette fois-ci, après les autotests maintenant qui sont en rodage, on va dire, en France, les équipes de chercheurs québécois essaient d'inventer un nouveau modèle de dépistage. Alors, l'application sur smartphone. Les chercheurs de l'Université de Montréal cherchent à perfectionner un dispositif désigné comme nanomachine. Alors, grâce à cette
machine
très simple, ils prétendent pouvoir détecter la présence de n'importe quel virus, et donc
dont le sida.
Le sida, évidemment. Ça fonctionne grâce à une détection des anticorps, test classique. Ça a un coût pour la collectivité qui explique les scientifiques que c'est un petit peu cher, les tests classiques. La nanomachine peut faire l'analyse et l'envoyer directement à un spectrofluoromètre chez le médecin. Je vous expliquerai pas ce que c'est un peu long.
Pour le médecin, il voit ça arriver, il dit qu'est-ce qui se passe.
Oui, mais figurez-vous, m'a l'air que l'objet n'a pas encore de nom spécifique, mais ça coûterait moins de 25 cents américains à fabriquer et $1000 quand même la machine pour auto-tester du côté des médecins.
Bon, ça vaut peut-être le coup. Hein, réaction d'Hervé?
C'est une autre
tout
piste.
Tout est bon à prendre.
Pourquoi pas? Après, on en revient comme à l'autotest. Comment gérer la question du résultat, qu'il soit négatif ou a fortiori positif?
Alors okay, là, ça va directement chez le médecin, donc il peut y avoir éventuellement une prise en charge.
Alors, te trompe pas. Hein. Si t'envoies ça chez tes parents, c'est gênant.
C'est-à-dire que ça bouleverse les habitudes, la démarche habituelle. C'est-à-dire que là, si ça va chez le médecin, qui est-ce qui appelle ? C'est le médecin qui appelle la personne pour lui donner le résultat et
oui,
lui
oui,
donner rendez-vous.
Oui, oui, parce que c'est lui qui a le résultat. Oui,
c'est
oui.
pas très
donc
discret.
C'est pas. Ouais. C'est enfin c'est pourquoi pas, intime, pas hein. Pourquoi pas hein. C'est plus on dépistera de monde, mieux ce sera. Après, c'est comment ça va se passer et comment la personne peut recevoir au mieux ce résultat.
Salut Démétrio, tu vas bien ?
Bonjour Malher, bonjour à tous.
C'est la première fois que tu es avec nous. Hein ?
Oui, c'est la première fois.
T'es content, non ? Tu me disais tout à l'heure, avant de commencer, tu sors avec trois filles en même temps. C'est compliqué.
Ouais, c'est ça.
C'est compliqué.
Ouais. Surtout que je... Voilà. Hein.
Ouais, tes parents écoutent, c'est ça ?
Oui,
ça
voilà, c'est ça.
Ouais,
bah,
ils ne te laissent pas démonter.
Qu'est-ce que tu veux savoir, mon petit ?
Non, comme on est sur le sida, moi j'avais une question qui me paraît importante, c'est... Est-ce qu'il y a une solution du lendemain ?
Par exemple, si la capote a craqué.
Ouais, par exemple, voilà, si on a eu un problème.
Alors, il n'y a pas une solution, il y a une décision à prendre, c'est-à-dire qu'il faut réagir le plus rapidement après, par exemple, une capote qui craque, parce qu'elle aura été mal utilisée. C'est de se rendre le mieux, c'est dans les 3 heures, mais ça en a quand même jusqu'à 48 heures autrement.
Si ça arrive à minuit, il faut que tu te prennes à 3 heures du matin.
Avant 3 heures du matin. Aux urgences, pour rencontrer un médecin, et avec lui, il va y avoir un échange pour évaluer s'il y a eu un risque réel ou pas. Et en fonction, le médecin prescrira un traitement post-exposition, c'est-à-dire un traitement qui sera dans le but d'éviter la contamination. C'est pour ça que plus le temps est réduit, plus il y a de possibilités d'éviter la contamination. Mais ça n'a rien à voir avec la pilule du lendemain, parce que quand tu dis du lendemain, ça évoque la pilule du lendemain. Je pense que c'était un petit peu le lien que tu faisais.
Voilà.
Là, c'est vraiment en cas d'accident. On parle d'exposition, accident d'exposition au virus.
C'est une mini-trithérapie.
C'est une trithérapie pendant un mois. Ça veut dire qu'il y a les risques d'effets secondaires avec une fatigue, peut-être des maux de tête ou des diarrhées. Donc ça veut dire que c'est pas simple, par exemple, quand on est élève, étudiant, ça n'est pas simple que de prendre une trithérapie pendant un mois. C'est important de le savoir.
Ça t'est arrivé ?
Non. Non, mais c'était juste pour savoir.
Ouais, c'est bien.
C'est combien de cachets aujourd'hui, Hervé, une trithérapie ?
Alors, la plupart aujourd'hui, enfin, ça dépend depuis combien de temps ils le prennent, mais quelqu'un qui aujourd'hui serait séropositif aura certainement une monoprise par jour. Un comprimé qui contient plusieurs molécules, mais c'est une monoprise par jour. Ce qui est donc quand même beaucoup plus confortable qu'auparavant. Après, ça veut dire que c'est un traitement quand la séropositivité est là. Quand on parle du traitement post-exposition, c'est sur un mois. Quand on parle d'une personne séropositive, son traitement est à prendre à vie.
Et après, au bout d'un mois, tu es obligé de refaire un test pour savoir si ça...
Tu refais un test, effectivement, au bout d'un mois, et tu en refais encore un mois après. À condition qu'il n'y ait pas eu de prise de risque, bien entendu, dans ce laps de temps.
Toujours après le rapport, est-ce que il y a, quand on a eu un risque pareil, est-ce que les résultats des tests, ils veulent vraiment dire quelque chose, en fait ?
Par exemple, si on reprend le cas de la rupture d'un préservatif, il y a un test qui va être fait tout de suite pour renseigner, non pas sur le rapport qui vient d'avoir eu lieu, mais sur la période précédente. Parce qu'une personne peut être contaminée si elle n'a pas fait de test, elle ne le saurait pas. Là, on découvrirait, mais ça ne renseigne pas sur le mois précédent. Ça renseigne avant, tu comprends ?
Oui, je comprends.
Donc ça veut dire qu'il y aura un test tout de suite pour découvrir. Si la personne est séropositive, ce n'est pas la peine qu'on lui donne un traitement post-exposition. On va tout de suite faire les examens pour lui donner un traitement. Par contre, si le test est négatif, donc là, et qu'il y a un risque réel, le traitement sera proposé à la personne. Donc il l'apprendra pendant un mois. Et comme Malher l'a dit, donc il y a un test à la fin du traitement au bout d'un mois, et on attendra encore un mois pour refaire un test. Et là, si c'est séronégatif, si les deux sont séronégatifs, la personne n'aura pas été contaminée.
Voilà, très bon jour. Eh oui, Démétrio, t'as vu comment c'est hein.
Ouais.
T'en as une autre, une petite question ?
Non, pour ceux qui sont allergiques, par exemple,
au latex,
comment ça se passe ?
Alors, les personnes allergiques au latex...
Il y a d'autres matières. Hein.
Tout à fait.
Tout à fait,
petit homme. Bien, Malher.
T'as vu ça, je m'intéresse, attention.
Donc, il y a...
Elles sont plus chères, non ?
Oui, tout à fait. Il y a donc ce que l'on appelle le polyuréthane, qui est donc une matière hypoallergénique. En l'occurrence, le préservatif féminin, justement, est en polyuréthane et donc évite tout problème
d'allergie.
Et autrement, quand on utilise le préservatif, de toute façon, il est recommandé d'utiliser du lubrifiant à base d'eau. Et quand on utilise du lubrifiant, souvent chez les jeunes femmes ou chez les femmes, il y a des allergies au niveau vaginal. Avec le lubrifiant à base d'eau, ça élimine l'allergie.
On n'en parle jamais du préservatif féminin, ça marche pas. Pourquoi ?
J'essaie d'en parler à ce micro, mais souvent, on ne
laisse pas
en parler.
C'est alors, compliqué, c'est cher. Faut...
Oui, alors c'est
la personne peut la mettre avant.
Qui effectivement, pas ouais. forcément, pas forcément. Non. La question de poser le préservatif pour la femme, c'est comme pour l'homme, c'est une question d'habitude. Je pense qu'au début que tu as commencé à mettre des préservatifs, c'était pas simple.
Oui.
Aujourd'hui, c'était... avec ta ah, grande
c'était
pratique,
très compliqué.
Pratique,
c'est oh là facile. Là, on était à plusieurs. Hein.
Non. Mais
pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est?
Ben, je pense qu'il y a eu une communication au départ qui n'a peut-être pas été très très bonne. Il y a les habitudes du préservatif féminin, la considération que le préservatif c'est plutôt l'homme qui le porte,
ouais.
alors que souvent c'est les femmes qui sont quand même beaucoup plus sensibles à tout ce qui est prévention. Et puis le coût qui est effectivement un frein. Et...
C'est quoi? C'est 2-3 euros?
Oui, bon, c'est un peu plus de. Oui, c'est à peu près dans ces prix-là, je ne sais plus exactement, ouais, mais c'est effectivement un frein. Après, ça présente bien des avantages pour l'homme comme pour la femme.
Merci, Dimitrios, c'est
merci.
Tout.
Merci.
Oui, merci, jeune homme. Tu peux rentrer dans ta chambre.
Bonne
Alors, attention. Nous accueillons Élodie Périsi. Bonjour, Élodie. Tu vas bien?
Très bien, merci.
Bon, c'est vrai que tu t'occupes de la communication de Faïtès Monaco. Et alors, attention, trois événements juste avant le 1er décembre, c'est ça?
Voilà.
Trois événements, ouais.
Autour de la journée mondiale du
Ça film. Commence le lundi 23 novembre, c'est ça?
Oui, le 23 novembre, c'est
Qu'est-ce qui se passe, là?
Le film, la diffusion du film sur la maison de vie. Ça s'appelle La Maison de Vie avec un S à la fin. Et ça marque aussi les 5 ans de La Maison de Vie.
C'est Stéphanie qui vient d'arriver. Bonsoir Altesse, bonsoir Stéphanie, ça va bien,
bien?
Ouais, du bruit pour la princesse Stéphanie, s'il vous plaît.
Voilà.
Ah, quand même. Et Christine Barca avec. Tu vas bien, ma Christine? Oh, t'es belle nouvelle coupe de cheveux, non? Ouais, petite rousse, hein, attention. Voilà, alors... Le film, est-ce que tu l'as vu?
Oui, je l'ai vu.
Élodie, oui.
C'est un film de 50 minutes qui raconte donc les témoignages de 22 personnes qui ont séjourné à la maison de vie. C'est bien sûr très émouvant, mais aussi il y a de très belles images, des belles prises de vue. Enfin, c'est un beau reportage.
Ouais, c'est aussi l'occasion pour les personnes de pouvoir dire, quand on suit ce film, on prend conscience aussi de ce qu'elles vivent au quotidien. Pourquoi elles viennent à la maison de vie et finalement ce qu'elles y trouvent. C'est vraiment une belle perception du travail qui est fait là-bas et un bel hommage à la fois au travail fait par l'équipe et un hommage aussi pour la princesse puisque...
Qui a eu l'idée.
C'est vous qui avez eu l'idée et aujourd'hui nous en mesurons
belle idée,
tout
hein,
à fait l'efficacité.
Stéphanie.
Ça m'arrive, malheur.
Ouais. Ah ben justement, on appellera Didier Rouault tout à l'heure.
Oui.
Voilà, donc ce film va être projeté à Monaco.
Oui, au Théâtre Princesse Grâce à 19h le 23 novembre.
C'est ça.
Voilà. C'est entrée libre.
C'est gratuit.
Oui.
C'est,
voilà. Donc venez nombreux parce que vraiment c'est un très beau film et un moment à partager.
Alors,
voir ce que fait la maison de vie et comment vivent les personnes vivant avec le VIH.
Bon, bah, de toute façon, ils sont tous heureux. Tu te rappelles les émissions qu'on a fait là-bas? Ils sont tous contents. Ils sont tellement
alors,
bien. Ils veulent
contents,
tous revenir, tu te rappelles?
Ils sont contents. Oui. Ils sont contents à la maison de vie, mais lors des émissions, nous avons entendu aussi des émotions et des témoignages qui sont quand même lourds.
Alors, toujours dans les studios de Radio Monaco, Hervé Sbag. Salut, mon Hervé. Toi, tu
Bonjour,
fais tout le soir parce que Bruno Taillon est resté
c'est
coin. Il s'est taillé. Oh, c'est beau. Oh, c'est mignon, ça, dis donc. C'est de l'humour. Hein. Il est resté coincé dans une boîte de nuit en Espagne.
Non, il y a un congrès médical.
Oh, pardon. Oui, j'ai voulu l'appeler, il m'a dit non, je peux pas, on va tomber en plein congrès.
Oui.
Il a pas pu. Voilà. Et bien sûr, les élèves du lycée François d'Assise, Nicolas Barré, et on accueille Agathe. Attends, avant de t'accueillir, Agathe, j'ai une question pour Stéphanie.
Ça commence.
À l'approche de la journée mondiale de lutte contre le sida, Stéphanie, c'est aussi la période du Téléthon, mais aussi beaucoup d'argent qui sont récoltés pour le Téléthon, et beaucoup moins pour le sida. Ça reste un problème, non? Ils pourraient partager un peu, non? Non.
C'est le grand débat, ça. Mais je veux dire, la journée mondiale du sida, c'est pas comme le Téléthon, une journée où on doit récolter de l'argent. C'est une journée pour l'information, pour aussi se souvenir de ceux qui nous ont quittés, qui ont été emportés par la maladie. C'est une journée mondiale pour une prise de conscience, pour en profiter pour prendre des informations, pour pas oublier que le VIH est toujours là. Le Téléthon, c'est une tradition de pour moi, d'exhiber des personnes malades à la télé pour récolter des sous.
Ben oui.
Et l'équivalent pour le VIH, c'est le SIDAction. Bon, c'est sûr que ça récolte moins parce que c'est peut-être une cause qui touche moins les gens. Et je pense que c'est pas ça. Je veux dire, il faut donner si on a envie de donner, on a envie de changer les choses et que les choses avancent. Mais comme on en avait déjà parlé chaque année à cette approche, De toute façon, les chercheurs, ils cherchent pour tout. Ils cherchent pas juste pour le VIH, ils cherchent pas juste pour le cancer, ils cherchent pas juste pour la mucoviscidose. Donc je pense que de faire un gros pôle de sous pour les chercheurs en général.
Parce qu'en cherchant
pour une maladie, ils peuvent trouver autre chose pour une autre. Donc je pense que de toute façon, tous les chercheurs ont besoin d'être aidés, quelle que soit leur recherche. Donc pourquoi discriminer et partager, dire non, on donne ça pour la recherche du sida, ça pour la recherche du cancer. De toutes les manières, dans les labos, ils cherchent pour tout. Donc autant donner à tous les labos.
Ben ouais. Voilà.
Et Princesse Stéphanie, l'an dernier, vous aviez participé à pas mal d'émissions de télévision, de journaux. Est-ce que cette année, vous avez été sollicitée un petit peu plus également pour cette journée du 1er décembre ?
Ah, pas du tout.
Pas du tout.
Ah, pas du tout.
Pas du tout. Il n'y a plus le téléphone. Mais elle n'a plus le téléphone, Stéphanie.
Non, nous, on fait nos choses sur Monaco et on montre qu'on se mobilise énormément. Je pense qu'on est le seul pays en Europe qui fait quelque chose pour la journée mondiale du sida. Avant, il y en avait beaucoup plus, mais je crois qu'on doit être les seuls maintenant. Et voilà, en France, on fait plus rien. Ils en parlent un petit peu aux infos, ils font un petit reportage et puis voilà, quoi, c'est tout.
Mais le sentiment que ça vous arrange, Stéphanie, qui vous appelle plus, non ?
S'ils m'appellent pour les bonnes raisons, c'est-à-dire parce qu'ils ont envie de faire des choses et parler du VIH et de se mobiliser tous ensemble, je veux dire au niveau européen, au niveau des gouvernements, parce qu'on ne peut pas tout faire nous seuls, les associations, je veux dire même les associations françaises, elles sont un peu laissées à l'abandon. Je veux dire, si c'est pour ces raisons-là, oui. Si c'est juste pour voir la princesse Stéphanie à la télévision, c'est pas la peine.
Fini. Voilà. Allez, hop là. On ferme. Merci Stéphanie. Salut Agathe. Bonjour. Bonsoir. Agathe, ça va bien ?
Ça va, merci.
Qu'est-ce que tu veux savoir, Agathe ?
Alors moi, j'aimerais savoir, lorsqu'on est atteint du sida, j'aimerais savoir les symptômes qu'on peut présenter.
Tu poses la question pour savoir s'il y a des symptômes quand une personne est contaminée, ce qui permettrait de déceler ou pas si la personne a été contaminée.
Oui, c'est quoi les symptômes ?
Alors, il y a des symptômes, mais qui peuvent tout à fait passer inaperçus, puisque ce sont des symptômes qui sont équivalents à ceux de la grippe. Donc, par exemple, fatigue. À cette époque de l'année, il y a beaucoup de personnes qui ont la grippe, une fatigue, oui, un peu des maux de tête, une fièvre. Si on est vigilant, si la personne est consciente qu'elle a pris un risque, de toute façon, le mieux, c'est d'aller passer un test. Si elle ne passe pas de test, mais qu'elle se rend compte que dans les 10 jours après le risque, elle a ce type de symptômes, il faut qu'elle aille voir son médecin et qu'elle fasse état de son rapport qu'elle a eu, et le médecin préconisera un test. Mais de toute façon, le seul moyen de savoir si une personne est contaminée, c'est de passer un test. Les symptômes, pendant longtemps, on a dit qu'il n'y en avait pas parce qu'ils passent inaperçus.
Il y a des gens qui ont le VIH, qui ne savent pas.
Mais c'est
tout va très bien.
Il y en a énormément. Oui,
c'est le problème. Et c'est eux les plus dangereux.
Ben, c'est le problème de la continuité de l'épidémie. Parce qu'il y a bien des personnes qui ne savent pas qu'elles sont séropositives et n'ont pas conscience de prendre de risques.
Comme on ne sait pas, il y en a peut-être même plus qui ne savent pas que celles qui le savent.
Et qui ne se protègent pas.
Puisqu'ils ne savent pas.
Voilà. Et ben ça, c'est du
C'est pour ça que nous faisons de plus en plus de dépistage.
Oui.
Et que nous dépistons un maximum de monde. Nous en parlerons tout à l'heure, mais lorsque nous le faisons dans la rue, c'est justement pour dépister tout le monde.
Voilà. C'est ça le danger, je crois, aujourd'hui, c'est que les gens, ils n'ont pas conscience qu'on pourrait éradiquer l'épidémie du VIH si on arrivait à tester tout le monde et mettre sous traitement toutes les personnes qui se trouvent séropositives, puisque nouveau traitement maintenant, les gens ne sont plus contaminants. Donc on pourrait arrêter l'évolution du VIH dans le monde, mais les gens n'ont pas envie de se mobiliser. Ça coûte un peu d'argent, mais ça coûte beaucoup moins cher qu'un missile.
Il y a certains toubibs, paraît-il, qui le font sur des patients, sans demander l'autorisation du patient, qu'ils font le test du sida, quand ils sentent qu'il y a un problème. J'ai entendu parler de ça ?
Oui, bien entendu, on le sait, mais souvent, quand les médecins le font, c'est des fois pour avoir l'impression de se protéger en cas d'une intervention chirurgicale ou de choses comme ça. Mais c'est interdit. La personne qui était testée, le médecin doit demander à la personne son accord. Donc le problème, c'est que s'ils testent sauvagement, d'abord ils peuvent être condamnés par la suite, mais c'est comment donner le résultat à une personne qui ne savait pas qu'elle allait avoir un test sur le VIH, comment lui annoncer que finalement elle a le sida.
Ça concerne la France, ce genre d'interdiction, c'est dans le monde entier où les médecins n'ont pas le droit de tester sans demander l'avis ?
Dans le monde entier, je ne sais pas, mais dans la majorité des pays, oui, l'obligation est le test est toujours à la demande du patient, enfin, ou avec l'accord du patient. Et en principe, on le voit bien pour les femmes enceintes, où il est systématiquement proposé à une femme enceinte de passer le test.
Et elle peut refuser.
Et la réponse, c'est 99% des femmes qui acceptent de le
bien
passer.
Bien sûr.
Donc quand c'est proposé de façon intelligente, les personnes, en principe, ne refusent pas.
Enfin, après, c'est aussi compréhensible de la part du. Enfin, moi, j'estime de la part des médecins soignants, surtout dans les urgences, aux hôpitaux. S'il faut opérer d'urgence, je comprends qu'ils fassent le test. Il y a eu tellement d'accidents de blocs où des personnes ont été contaminées sans le savoir.
Oui, voilà. Mais logiquement, le médecin, il doit prendre les mesures de précaution pour tout le monde. Et justement, il y a eu des études qui ont été faites. Quand un médecin vient de l'apprendre et qu'il doit, par exemple, opérer, il y a plus de risque qu'il se blesse, qu'il ait un geste justement pas aussi contrôlé que d'habitude. Donc c'est pour ça que le mieux, bien entendu, c'est d'avoir la sérologie.
Oui.
Mais il faudrait que ce soit préparé à l'avance, ou les urgences, comme vous le dites, c'est pas possible. Mais de toute façon, les mesures de précaution d'hygiène doivent être les mêmes pour tout le monde. Et on a vu pour les dentistes. Ed a fait une enquête.
Ouais. Alors, justement, on va y revenir dans quelques instants, les amis.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Et oui, c'est l'événement. Aujourd'hui, Radio Monaco accueille Jungle Fight, la première émission de radio d'action, de prévention et de lutte contre le sida, les amis. On est tous là depuis déjà.
La première est la seule.
Eh oui, on est les seuls, dis donc. Incroyable. Hein. Ils font ça nulle part. J'étais voir sur Internet, rien du tout. Ils essayent de nous copier, ils n'arrivent pas, donc ils ont arrêté. C'est normal. Et Agathe qui est toujours là, petite Agathe, ça va ?
Toujours là.
Qu'est-ce que tu voudrais savoir ?
Alors moi j'avais une autre question, c'était pour savoir si la pilule contraceptive, ça remplaçait le préservatif face au IST ou au sida ?
Oh là !
Alors pas du tout.
Et ça on en a entendu parler souvent.
Alors pas du tout.
Il ne faut surtout pas confondre la pilule contraceptive, donc c'est pour éviter de concevoir un enfant, et pour se protéger des IST et du VIH. Le seul moyen, c'est d'utiliser un préservatif avec lubrifiant.
Voilà. Allô, comme on a dit tout à l'heure, Agathe. Salut Alain. Oh, salut. Ça fait Alain. T'es ému de voir la princesse Stéphanie devant toi. Ça fait longtemps.
Non.
Tu m'appelles depuis un mois.
Depuis tellement longtemps.
Ouais.
Fighted fait partie de mon quotidien maintenant.
Ben oui.
J'ai la chance d'être accueilli depuis 10 ans.
Oui.
À peu près 10 ans. En faisant des ateliers de ressourcement, de bien-être.
Tu peux dire ce que c'est que les ateliers de ressourcement ? Ça, c'est quoi ?
Il y en a un qui me revient à l'esprit. Le jour où j'ai appris, j'ai découvert ce que c'était que l'eau.
L'eau ?
L'eau. Parce que c'est...
Tu n'avais jamais touché d'eau avant ?
Dominique Sylvain.
Dominique, oui.
Avec Dominique.
Qui est une animatrice haïtienne.
Oui. Non.
Mais qu'est-ce que tu as fait avec de l'eau,
je crois ? Je l'ai respecté, j'ai appris ce que c'était que l'eau, j'ai appris que des femmes faisaient des kilomètres dans le désert pour aller chercher de l'eau, et que moi j'en avais au robinet, puis bien souvent, ça a été des petites choses comme ça. Et puis il y a le yoga, il y a la maison de vie, les séjours, j'en ai fait qu'un séjour à la maison de vie, mais...
Qu'est-ce qui t'a marqué ce séjour ?
Découverte de soi. Apprendre à lâcher prise, apprendre à ne pas s'accrocher à ce qui n'en vaut pas la peine, prendre son énergie pour aller mieux, apprendre à respirer.
Je me souviens que tu avais un rendez-vous, tu nous as dit pour un week-end de ressourcement que nous avons fait en janvier, et tu avais un rendez-vous avec un intervenant de la maison de vie. Il t'avait donné du travail
à
faire.
C'est quoi le job
Je suis un modèle de collection maintenant, je suis un modèle plutôt ancien.
Tu peux dire ton âge peut-être au micro ?
Oui, je suis un modèle de 1947, donc j'ai 68 ans.
Voilà, et tu vis avec le VIH depuis ?
Oh là, depuis 28 ans, j'étais contaminé, j'avais 40 ans.
Ah ouais.
C'est pour ça que je voulais absolument être là ce soir, parce que s'il n'y avait pas eu Fighted, je ne serais pas dans cet état-là psychique, moral, physique. J'aurais baissé les bras. Ou alors je serais devenu un vieux monsieur de 68 ans. Et c'est pour ça que ça a été.
Mais je suis pas vieux, mais j'en peux plus.
C'est important pour moi, parce que je serais peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. J'aurais peut-être baissé le rideau. Et toute cette énergie, le yoga, l'art du bonheur, tous ces outils mis à ma disposition qui font que il y a des jours, j'ai l'impression que ma vie commence.
Alors ça, c'est
incroyable. À 68 ans de dire ça et 28 ans de virus. On a parlé de solitude aujourd'hui, mais la solitude, j'en suis une amie, la solitude n'existe pas pour moi.
Elle a existé donc, ça veut dire.
Ah, oui, elle a existé, elle a été terrible, mais il y a une chanson d'ailleurs, La solitude n'existe pas. Gilbert Biscourt, je crois, ou c'est Factet qui m'a aidé à gérer tout ça. J'ai repris conscience, j'ai vaincu ma timidité. Il y a quelques années, vous ne m'auriez pas vu ici.
Ah ben, disons, pour un mec timide, disons, il est bien.
Oui, hein, oui, non, mais ça, c'est...
Dans ta vie professionnelle, tu avais l'habitude, tu as eu une vie professionnelle riche. Est-ce que c'est après le VIH, justement, tu as perdu cet entrain que tu as eu dans ta vie professionnelle?
Dès que l'on est malade du sida, on vit dans le mensonge.
Tu l'as caché très longtemps?
Je le cache toujours.
Oui.
Il y a des gens dans ma ville, j'habite Cannes, je ne le dis pas, ils ne le savent pas. Personne ne le sait. Certaines personnes savent que je vais à Monaco, mais il y a un club à Monaco.
Tu sais ils t'écoutent là-bas à Cannes, tout le monde.
Oui, mais ils n'ont pas ma photo. on est obligé de vivre dans le mensonge. On ne peut pas le dire comme ça. Moi, je n'arrive pas. Je ne pourrais pas dire bonjour, salut, je suis Alain, j'ai le sida. Je ne peux pas. On se cache. On vit dans le mensonge.
Jungle Fight sur Radio Monaco. Avec son Altesse Sérénissime, la Princesse Stéphanie.
Et oui, les amis, aujourd'hui, Radio Monaco accueille Jungle Fight avec la Princesse Stéphanie. Un tonnerre d'applaudissements pour Stéphanie. S'il vous plaît, mesdames. Alors, ça tombe bien, j'ai une question pour Stéphanie. Dis donc, c'est dingue.
C'est fou, ça.
Est-ce que les bonnes nouvelles sur la recherche, tout ce qu'on entend, ça vous rend heureuse? Est-ce que ça vous redonne confiance ou vous êtes toujours un petit peu sceptique quand même?
Je suis contente dans un sens, parce qu'on avance, et on va y arriver, mais je suis inquiète.
Et ça continue quand même.
La manière dont c'est annoncé et dont c'est expliqué aux gens. Parce qu'on a eu le même problème avec les trithérapies, où ça y est, il y a un médicament, on a résolu le problème, et donc tout le monde, allez, hop, c'est la fête. De toute façon, il y a un médicament, c'est comme si on avait une angine, on prend une semaine d'antibiotiques et c'est fini. Et il y a plein de gens qui sont contaminés comme ça aussi. Parce qu'ils ont cru que voilà, on allait trouver la solution. Donc c'est toujours comment c'est amené. Et moi j'attends de voir tous ces trucs si c'est 110% de sûr. Il y a plein d'avancées, de traitements, de choses. Ils sont à 50%, 60%. Tant que c'est pas 110% sûr et on recule dessus, je n'écrirai pas victoire. La seule chose, c'est qu'il faut plus se contaminer. Voilà, c'est tout. Et après, on est juste à trouver des solutions pour les gens qui sont là. D'améliorer les traitements qui ont malheureusement été contaminés. Mais la solution, c'est de ne pas être contaminé. Et ça, on n'a que le préservatif. Peut-être qu'un jour, il y aura un vaccin. Mais c'est dangereux aussi parce que les gens vont dire, de toute façon, je suis vacciné. Allez, j'y vais. Et on ne sait pas si à 100%, c'est sûr. Voilà.
Oui, c'est ce qu'on appelle... On fait beaucoup de buzz en ce moment dans les médias.
Oui,
beaucoup de déclarations et rien derrière.
On a eu un résultat là, récemment de BioSantec que nous avons reçu d'ailleurs au micro. Et qui a annoncé des résultats, mais la communauté scientifique rappelle bien justement la prudence, comme vous le dites, Altesse, dans le sens où c'est une étude qui était faite sur 12 patients, je crois. Donc les résultats ont besoin vraiment d'être confirmés.
Je voulais revenir, mon petit Alain. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu as fait pendant ce week-end de ressourcement? C'était quoi?
Pleine conscience.
Vous faisiez quoi?
En deux mots, c'est immense, c'est colossal. Ouais. De la relaxation, sophrologie. Prendre conscience du soi, du moi, qui respire, qui a les deux pieds sur terre, bien posés, deux ans après marcher.
C'est être en conscience, Malé.
En conscience, conscient du moment présent, de ce qui se passe au moment présent.
Comme disait le poète, surtout ne pense pas à demain.
Voilà.
C'est difficile, c'est vraiment quelque chose à vivre. Et donc, tu peux dire ce que ça a justement pour toi.
T'as pris confiance?
Oui, et puis savoir faire des choix, éliminer ce qui est négatif, les personnes négatives. On reste dans le positif, on nous apprend à être positif.
Nous avons eu le cas pendant le week-end, aussi pouvoir vivre avec ce qui n'est pas toujours bon, parce que la vie n'est pas que bonheur. Et pendant le week-end, nous avons eu un petit incident.
C'était quoi?
Sur une histoire de tabac, quelqu'un qui fume pas, qui est dérangé par ça. Donc il y a eu un petit incident entre ces deux personnes. Mais après, elles ont pu discuter. Et que je pense que le fait que nous avons travaillé sur la pleine conscience, sur le fait de s'écouter, ça a été résolu. Ils ont pu se reparler. Et la fin du week-end, tout le monde était
tout le monde est sorti en boîte.
Et sorti content.
Oui.
Tu voulais rajouter quelque chose?
Il y a plein de choses à dire.
Sans vous, Factel n'existerait pas. Et le nombre de copains qui ont retrouvé la joie de vivre, un certain bonheur, c'est parce que vous êtes...
Eh ben voilà. Applaudissements, s'il vous plaît, pour Alain et pour la princesse. Merci, mon cher Alain. Franck, je voulais juste revenir, avec toi, puisque début 2016, les homos, les homosexuels, pourront donner leur sang, ce qui n'était pas le cas depuis...
83.
Oui, exactement, voilà. Depuis tout début de la déclaration de l'épidémie, c'était interdit pour les homosexuels de donner son sang. Et alors là, c'est la loi santé qui est passée en France, une loi santé qui est en ce moment en discussion du côté du Parlement français. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a décidé de valider une demande qui a été faite depuis très 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 longtemps par la communauté homosexuelle, c'est-à-dire de pouvoir autoriser à donner son sang lors d'opérations de don du sang. Mais attention...
Attention, il y a une condition.
Il faut certifier ne pas avoir eu de relations sexuelles pendant les 12 derniers mois. Alors, c'est pas forcément.
Mais comment tu peux demander ça à quelqu'un? Mais c'est pas possible, quoi.
Comment tu vérifies?
Ah, bah, toi, c'est la question.
Et dis donc, toi. Et... Alors, qu'est-ce que vous savez, Stéphanie, de ma vie intime?
Ah non, c'est vrai, t'es allée en Thaïlande il y a pas longtemps.
Eh ben, voilà.
Ça revient toujours, ça.
Ouais, à la Thaïlande.
Ah ben bah ouais, mais je me protège. Bah ouais,
c'est une condition qui est absolument débile.
Mais c'est surtout que c'est une déclaration, d'abord, bon, à vérifier, rien à signer. Et puis, ça permet pas de savoir si la personne est infectée ou non.
Ben non.
Et puis, ça permet pas de savoir si, en plus, c'est un couple fidèle et qu'il n'y a pas de problème. Bah, s'ils ont eu une relation sexuelle
c'est complètement
la veille,
débile.
Bah,
ça prouve encore que même dans les hautes instances françaises, n'est-ce pas, ils sont complètement à côté de la plaque et pas au courant du tout des choses sur le VIH, quoi.
Ouais.
Ça prouve quand même que la ministre de la Santé de la République française,
Marisol Touraine,
est quand même un peu débile au niveau sida, quoi.
Elle a coupé la poire en deux.
Largué complet, là.
Tu peux être hétéro, sortir avec trois filles et aller faire ton test.
Et voilà, et tu peux aller donner ton sang, mais c'est carrément débile.
Alors, c'est une étape.
Mais c'est effarant, quand même.
Oui, c'est effarant, effectivement, parce que de toute façon, ça veut dire qu'une personne homosexuelle qui va se présenter et donner son sang, est-ce qu'ils vont le prendre? Parce que qu'est-ce qui va prouver que la personne n'a pas eu de relation sexuelle?
Mais non, c'est une manière détournée de dire on veut bien les prendre, mais de toute façon, on ne peut pas les prendre.
C'est ça. Donc, ils auraient annoncé en 2007, on prendra le sang, puisque c'est ça, en fait. Ouais. Apparemment, au printemps 2016, ils mettent en place pendant un an. Et en 2007, logiquement, ça devrait devenir comme tout le monde, hétérosexuel, homosexuel, même égalité.
Oui, mais ça c'est une manière détournée de dire on peut pas le faire.
Ouais. Alors sauf pour le plasma.
On ne peut rien faire du tout, quoi.
Le plasma, c'est quoi?
C'est une
partie. Il ne faut pas faire l'amour pendant combien de temps?
Non, le plasma, c'est 4 mois. C'est au même titre.
4 mois?
Si les personnes sont en couple et donc n'ont pas pris de risque. Et si, ou encore, bien entendu, s'ils n'ont pas eu de rapport sexuel.
Bon, ça ne marchera pas.
Eh bien, ils peuvent donner leur plasma. Donc là, on tombe à quelque chose de plus.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui sont menteurs aussi. Et puis aussi, il y a le problème des gens.
Ça incite.
Non, il y a toujours le même problème des gens qui sont séropositifs et qui ne le savent pas.
Aussi. Et puis parmi la population hétérosexuelle, il y a autant de possibilités.
Ils sont largués.
Disons que c'est déplacer un peu le sujet, parce qu'auparavant, pour donner leur sang, les homosexuels devaient cacher qu'ils étaient homosexuels. Et maintenant, ils vont devoir
cacher. Maintenant, ils sont obligés de le dire.
Ils ont eu des relations sexuelles.
Ouais.
Ou cacher toujours qu'ils sont.
Et s'ils disent qu'ils sont hétéros, c'est bon, ça passe.
Ça passe.
Bon, ben, on vous tient au courant.
Mais c'est une histoire de fou, ce truc. C'est carnaval, là, c'est bon.
C'est le carnaval. Tiens, on a Anthony.
C'est Roselyne Bachot qui doit rigoler aussi. Elle n'aurait pas fait ça. Hein.
Ah, ben, je pense qu'elle va faire une sortie là-dessus.
Oui, là, elle va nous faire quelque chose, ça va pas être triste.
Elle va y aller. Tiens, on a Anthony avec nous, affilié à Fightez Monaco. Salut, Anthony.
Bonjour.
Il vient d'être papa. Il est né avec le VIH, Anthony, c'est bien ça? Tu t'es marié cet été, ta compagne n'a pas le VIH. Donc, vous avez fait un bébé qui n'a rien.
Qui n'a rien, qui est en très bonne santé.
Donc, tout va bien.
Tout va bien et on a pu le faire normalement.
Donc, nous sommes très heureux. Déjà, Anthony, tous nos vœux de bonheur pour Naomi.
Ouais.
Et nos félicitations à toi et Tiffany. Nous avons connu Anthony il y a 10 ans maintenant et donc...
C'est notre premier bébé à Fightez.
Ah ouais, c'est un bébé tout propre.
Alors, il y a les jumelles de Sarriette aussi.
Les jumelles de Sarriette, c'est quoi ça?
Ce sont des petites jumelles.
Ah, j'ai eu peur, je croyais que c'était encore à nouveau... Dis-moi, alors attends, ça n'a pas été facile pour toi, Anthony, tu as eu un cancer à 9 ans, c'est ça? Lié au sida, je suppose.
C'est ça.
Ah ouais.
Lors de ma séropositivité, la mutation au sida, j'ai eu une maladie opportuniste, un lymphome B, un cancer des voies urinaires.
Alors la bonne nouvelle, c'est que maintenant, depuis 7 ans, le VIH est quasi indétectable chez toi.
Il est indétectable depuis 7 ans maintenant, et en prenant mon traitement tous les jours, je le maintiens au stade indétectable.
Et tu m'as dit que tu te protégeais plus avec ta femme depuis ça?
Depuis un an.
Elle ne risque rien?
Le risque zéro n'existe pas, mais on est suivi, on est encadré, elle fait des examens tous les trois mois, elle fait une prise de sang.
Et toi, tu es suivi régulièrement par le médecin?
Et moi, je suis suivi régulièrement aussi par l'archer.
Est-ce qu'il y a 7 ans, ou enfin quelques années, est-ce que tu pensais devenir père?
Non, toute mon adolescence, et quand j'ai vraiment compris ce que j'avais, justement, j'avais la peur de jamais être parent, de jamais être père, par rapport à moi, mes parents qui m'ont eu et que j'étais malade, j'avais peur justement d'avoir un enfant et pas le faire égoïstement et qu'il tombe malade. Donc du coup, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment avoir un enfant en bonne santé, quoi. Et du coup, quand le médecin en a vu par rapport à mes bilans et tout, machin, qu'on pouvait tenter l'expérience, on l'a fait, quoi.
Tu continues à bosser, Anthony?
Oui, je bosse, je suis routier depuis 3 ans maintenant.
Mais tu es en congé paternité, là?
Et là, je suis en congé paternité, là.
Et tu n'as rien dit à ton boulot, hein?
Non, ils ne savent pas que je suis malade, je préfère pas le dire. Il sait que j'ai des problèmes de santé, mais c'est pas quoi. Je reste flou.
Bon, c'est le bonheur.
Non, c'est le bonheur.
Et ben voilà, tout va bien.
Et Elvira, que nous avons eue ici à ce micro, qui est l'heureuse grand-mère. Elle est complètement folle de joie.
C'est ça. Elle est à fond, elle aussi.
Elle doit être bien gâteuse.
C'est la quatrième.
Merci Anthony, on te salue et on est content pour toi.
Félicitations Anthony.
Nous accueillons Justin, élève au lycée François d'Assise, Nicolas Barret.
Bonsoir.
Salut cher ami, ça va bien Justin?
Ça va très bien.
Qu'est-ce que tu veux savoir?
Alors moi j'aurais une question sur la conservation du préservatif. Donc on nous dit qu'il faut avoir toujours une capote dans le portefeuille.
Oui.
Et on nous dit aussi qu'il ne faut pas acheter des préservatifs dans des distributeurs exposés au soleil et donc au niveau de la température trop élevée. Donc cette question porterait sur y a-t-il des risques si on conserve notre préservatif dans le portefeuille au niveau de la température et de sa
conservation? Peut devenir
poreux,
ouais.
Alors c'est une très bonne question parce que la conservation est importante. Alors dans les distributeurs, en principe, ils ne sont pas exposés au soleil et les pharmaciens font attention à les changer. Donc là, le risque n'est pas
et
très
comme
important.
Comme ils sont bien cachés, ils sont pas au soleil.
En plus,
ils sont dans les tiroirs, dans le fond.
Dans le portefeuille, ça dépend de la fréquence d'utilisation. S'il est utilisé fréquemment, y a pas de problème. Si c'est avoir un préservatif pour dire j'ai un préservatif sur moi et que ça fait 6 mois qu'il est dans le portefeuille, c'est pas forcément très bon.
Il est cuit, c'est-à-dire c'est quoi? Ça devient poreux.
C'est-à-dire que
l'enveloppe,
le latex peut effectivement être abîmé parce que ça dépend du portefeuille. Si c'est un portefeuille qui est fin, il est effectivement en contact avec la chaleur du corps, ça peut le rendre plus fragile.
Bon, déjà, si tu l'as sur toi et que ça marche pas pendant 6 mois, c'est que ça marche pas aussi avec les filles.
Et c'est pareil aussi quand on met un préservatif, des fois des jeunes et des moins jeunes, pour sortir le soir, mettre un préservatif dans la poche du jean. S'il n'est pas utilisé dans la soirée, il faut le changer. Parce que il va être comprimé dans la poche, il
à ce
va être
là.
Abîmé. Oui, c'est mieux. Et si vous pouvez passer à Fighters Monaco et nous avons des préservatifs.
Voilà mon petit.
T'as c'est une autre pour question. Ça qu'on les avons dans des petits cartons justement.
Et ça se périme le préservatif? Il y a des dates
bien
de
péremption. Bien entendu, il y a une date de péremption. Il est important. Alors, Justin a parlé justement de où l'acheter. Il faut pas l'acheter n'importe où. Soit il faut venir le chercher à Fighters Monaco, l'acheter dans
internet,
une pharmacie, soit internet, soit dans les sex shops aussi, parce qu'il y a des fois des préservatifs qui sont plus des jouets, donc qui ne vont pas protéger. Donc il faut
avec des picots.
Mais pour les jeunes aussi en grande surface, c'est très bien, c'est plus anonyme,
oui,
parce qu'ils ont encore honte d'aller en pharmacie les acheter.
Et en grande surface, normalement,
ils ont
tous. Vous en
foutez, c'est la caissière, on regarde de travers, c'est pas grave.
Donc il y a de travers de façon.
La marque, c'est la marque de la communauté européenne et la date de péremption, comme tu l'as bien dit.
Moi, j'ai passé un diplôme de secourisme il n'y a pas très longtemps.
À la Croix-Rouge.
Voilà, à la Croix-Rouge. Et on nous a appris que quand il y avait une plaie avec une grosse hémorragie, il fallait comprimer la plaie avec un tissu. Et donc, il y a des risques de toucher, donc d'avoir un contact avec le sang d'un autre individu. Est-ce qu'il y a des risques donc aussi de contamination au niveau du sida?
Je ne sais pas si la situation que tu décris, si vous êtes dans le cadre de la Croix-Rouge, je pense que si c'est dans il y a certainement des gants. Quand on soigne quelqu'un, on porte des gants. Les pompiers, par exemple, une infirmière, si elle fait un soin, elle porte des gants. Après, même si tu n'as pas de gants, que tu dois, quelqu'un se blesse et tu dois le soigner, si tu n'as pas de plaie aux mains, il n'y a pas de risque. Si tu ne viens pas te couper, si tu n'as pas une coupure, quelque chose ou du sang qui est frais sur ton doigt, il n'y a pas de risque. La peau est une barrière au virus.
On va revenir avec Élodie Périsi. Bonjour Élodie, tu es responsable de la communication à Fightens Monaco, s'il vous plaît. On a parlé du lundi 23 novembre, film sur la maison de vie.
Voilà.
Tu rappelles où c'est
Au Théâtre Princesse Grâce à 19h.
Le 23 novembre.
Voilà, le lundi 23 novembre. Ensuite, bah, toute la semaine, il y a des événements. Donc, le mercredi 25... C'est le Test in the City.
C'est pour alors, Test in the City. Arrête de dire que je dois prendre mon test. Je l'ai fait la dernière fois,
tu
je te rappelle.
Tu dois pas prendre ton test.
C'était très intime. Il y avait France 2, France 3. Tout le monde attendait le résultat. C'était bien.
Bah, tu penses, tout le monde voulait savoir.
Mercredi 23 novembre, Test in the City, ça se passe où?
Le 25.
Ça se passe où?
Sur le parvis de Carrefour. C'est la première fois cette année, c'est la nouveauté. Du coup, ça se passe sur le parvis de Carrefour.
Du magasin Carrefour à Fontvieille, là?
Voilà, exactement. D'accord.
Non, le Carrefour à Maubeuge. Débile.
Et alors, on va installer toutes les tentes autour de la galerie marchande et voilà.
Et c'est à quelle heure, on peut savoir?
C'est de 10h à 19h.
Peut-être que nous resterons un petit peu plus s'il y a beaucoup de monde.
Voilà.
C'est vite fait, hein. Ça dure combien de temps? Ça dure 5 minutes,
ah
même
oui,
pas?
Ça dure 5 minutes.
À peu près, il faut compter 5 minutes parce qu'il y a quand même un entretien. Le test en lui-même est
J'ai pas
très
eu d'entretien,
court.
Moi. Non, on m'a rien dit. On va piquer tout de suite.
Parce que on sait que tu prends des risques, donc c'est pour ça que t'as pas posé.
On a pris 2 litres de sang, hein. C'est pas normal. Hein. J'étais
non,
pas
non,
bien.
Ne dis pas ça. C'est simplement une
oui,
petite
faut pas
piqûre.
Faire peur. Oui, t'as raison.
Une petite piqûre au bout du doigt et nous prenons
une
quelques gouttelette. Gouttes. Et donc nous passons dans un réactif et nous avons la réponse immédiate.
Alors, s'il y a un trait, tu es séronégatif. Ah bah c'était un trait, moi.
Ben non.
C'est un trait.
T'as fait une thèse de grossesse.
Et s'il y a 2 traits,
il confond,
ah c'est pour ça que j'allais
confond.
Pas bien. J'arrêtais pas de vomir. Ah, mais c'est ça.
Et après ce test, il y a un petit entretien. Certainement qu'on a dû te rappeler comment il fallait utiliser la capote.
C'est là où il dormait.
Il était tellement
Oui, ils l'ont
content.
Fait pendant mon sommeil, oui. Oui, oui. Donc voilà.
Et ça se passe dans une bonne ambiance. Donc, et c'est anonyme, bien entendu, confidentiel et gratuit.
Bon, ben ça c'est bien. Faut y aller. On rappelle la date, ma chère Élodie.
Le mercredi 25 novembre.
D'accord.
De
10h à
19h30. Ouais.
Et en même temps, au CHPG aussi. Hein.
Oui. Aux urgences, il y a effectivement... Ouais. Le test est proposé ce jour-là. Il le propose systématiquement aux personnes qui passent aux urgences, mais vous pouvez aussi vous adresser aux urgences si vous passez pour faire le test.
Il y a notre copine qui... Attends, salut, bonjour, comment c'est ton prénom?
Bonjour, c'est Anaïs.
Anaïs, tu vas bien, toujours?
Oui, très bien.
Du lycée François d'Assise, Nicolas Barret. Qu'est-ce que tu veux savoir, Anaïs?
Alors, on parle beaucoup de la transmission du sida par les rapports sexuels, mais est-ce qu'il y a aussi un risque quand on veut se faire tatouer ou quand on veut se faire un piercing, par exemple?
Alors oui, il y a un risque et le mieux est de poser la question au tatoueur ou au pierceur de savoir, lui, quelles précautions il prend. Puisqu'il est important d'avoir une aiguille spécifique pour soi.
Bah déjà, s'il n'ouvre pas les aiguilles devant toi, tu ne vas pas.
D'accord.
Voilà.
Normalement, il doit...
Elles sont dans les pochettes stériles. Voilà. S'il n'ouvre pas les aiguilles, si elles sont déjà sur la machine,
bah, tu
quand tu arrives, tu t'en vas.
Voilà. Tu t'en vas tout de suite.
Donc il y a un risque pour le VIH, certes, mais il y a un risque aussi beaucoup plus important pour l'hépatite. C'est-à-dire que si l'aiguille elle n'est pas stérile, si elle ne sort pas d'une boîte, comme le dit la princesse, il y a...
Non, mais ils ont les espèces de trucs comme les médecins,
oui.
Là.
Oui, tout à fait, qui sont...
là, à côté de ce papier, après...
Ah, oui.
Et pareil pour les aiguilles de perceur. Tout doit être stérilisé. Et,
à usage voilà. unique.
À usage unique. Donc, si tu veux qu'il a déjà les aiguilles sur la machine...
D'accord.
Au revoir, merci.
Et alors, du coup, merci
Parce
de poser cette question.
Aussi, moi, il y a eu des accidents aussi avec les perceurs et les tatoueurs, avec des staphylocoques. Hein. Ça,
oui,
ça va très vite. Surtout les piercings au nombril, c'est un point d'entrée pour les staphylocoques qui est très très fréquent.
D'accord.
Enfin,
un staphylocoque,
c'est tatoué derrière
doré,
l'oreille.
Doré le staphylocoque.
Bien entendu. J'ai un témoignage de Catherine qui a voulu aller se faire dépister et qui est allée donc dans un lieu spécifique. Et elle a donc précisé qu'elle était séropositive. Et à ce moment-là, le tatoueur lui a dit « Ben non, je ne peux pas vous tatouer ». Alors elle lui dit « Ah bon ?» Il lui dit « Ah non, là moi ça me fait peur.
Ouais. »
Elle lui dit « Mais si je vous avais rien dit ?» Bah oui, effectivement, mais là comme vous me l'avez dit, c'est idiot peut-être, mais je ne peux pas vous tatouer. Donc
bah,
voilà encore un cas de discrimination.
Bah oui, parce que quelquefois ils se mettent les aiguilles sur les doigts, même s'ils ont les gants et tout. Hein. C'est débile.
On l'a vu ça, aussi certains dentistes qui refusaient de soigner des séropositifs.
Ça prouve qu'ils ne sont pas très propres.
Alors il y a ça aussi, ouais. Stéphanie, le 19... novembre, c'est la fête nationale monégasque, le 19.
Non, c'est vrai.
La semaine prochaine. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Stéphanie? Vous allez distribuer...
Une longue journée.
Vous allez distribuer des colis aux personnes âgées?
Oui, j'ai pas le droit, 19.
J'ai le droit à mon colis.
Non, non. Pas monégasque, monsieur.
Ah, juste, c'est simplement monégasque.
Ah, ah c'est pour les aînés monégasques.
Ah, zut. Ah. Bon, pas de colis.
Non, mais c'est une belle journée. C'est la journée de notre pays. Et voilà, quoi. Moi, j'adore le défilé sur la place du Palais. Prise d'armes.
Le matin.
C'est très beau. C'est à midi.
À midi, d'accord.
Ah. Décidément, il renseigne.
Ah, ben non, mais je pose des questions, mais non, attends.
Non, mais je trouve ça bien, et puis ça permet de perpétuer les traditions, et voilà, je trouve que c'est important de nos jours que, voilà, ben, on continue à faire les choses comme on faisait, et voilà, et je me réjouis d'entendre la fanfare des carabiniers.
Et puis, un avantage, voilà, c'est de pouvoir tout voir de haut, puisque vous saluez à la fenêtre du palais princier aux côtés de votre frère.
Ouais.
Bon,
et on voit ça.
Mais c'est impressionnant pour nous, pour vous, ça l'est plus certainement, mais pour nous.
Ah ouais, bah quand je vous regarde là-haut.
Quelquefois, c'est un peu difficile, surtout pour nos amis de la presse, parce qu'on est plein soleil, donc parfois on allait.
Donc ça cligne.
J'aimerais bien être ailleurs quelquefois.
C'est vrai que c'est orienté.
On voit plus les yeux.
On a le soleil en plein en face.
La tronche explosée. Ouais.
Donc ça fait jamais des très jolies photos. Un peu.
Ok, c'est le 19, on le rappelle.
Non, mais c'est un moyen aussi que de réunir les monégasques et de. Je pense qu'il faudrait qu'ils se rendent compte de la chance qu'ils ont de vivre dans un pays comme ça, et tout ce qu'on fait pour eux.
Donc, exactement.
C'est une journée de, j'espère que les monégasques apprécient et leur permet de réfléchir sur la chance qu'ils ont.
Exactement. Et même ceux qui ne sont pas monégasques, on est bien ici. Moi, je voulais rester trois semaines.
Sûrement ceux qui ne sont pas monégasques qui s'en rendent compte plus que les monégasques. Voilà.
Voilà. Et puis, obtient un petit applaudissement pour eux. Merci Stéphanie. Je voulais revenir avec toi.
Je vais lâcher dans la rue
par les monégasques. Ah ben ça y est. Franck, je voulais revenir avec toi, le Truvada, oui. Cette pilule qui protège du sida.
J'en ai encore en Truvada.
Mais ouais, mais parce que il est testé à Paris en ce moment.
Mais il n'est pas testé.
Parce que... Ah ben si.
Il est proposé à Paris.
Il a été proposé, ouais.
Voilà,
ouais.
Depuis le début de la semaine.
On ne trouvait pas la vente, hein.
Ah non, mais non. C'est pas encore vendu.
Bah ouais.
Non.
C'est parce qu'il n'y a pas la MM en France.
Voilà, exactement. Alors, on
puis
sait.
Il est hors de prix en plus.
Oui. On a des tests, on a des études qui ont prouvé que ça pouvait être en partie efficace, mais c'est toujours un petit peu compliqué d'utiliser ce genre de médicament. Ça se passe à l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement de Paris. Le service des maladies infectieuses a ouvert un protocole permettant aux personnes non infectées, mais qui se jugent très exposées, de bénéficier d'un antirétroviral. Alors c'est une pilule bleue, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres pilules bleues, voilà, qui immunise pendant un laps de temps donné de la contamination. Alors, sauf que, il protège pas du tout des autres maladies.
Il protège que du sida.
Sexuellement transmissible, ouais.
Voilà.
Et puis, c'est aussi un signal pas forcément très bon pour les 15% de Français qui croient encore aujourd'hui que le sida se guérit par l'aspirine. C'est une étude qui vient de sortir.
Ah, ça, c'est pas mal, ça.
Et ben voilà. Et on apprend de belles choses,
c'est peut-être le ministère de la Santé qui l'aura dit.
C'est Marisol Touraine.
La copine de Stéphanie, Marisol Touraine.
Et est-ce que c'est l'étude de la SMEREP à laquelle tu fais allusion ?
Oui, c'est quand même beaucoup.
Parce que ce sont les étudiants et les
lycéens. C'est 15%, c'est
ça ? Non, mais ça, ce sont les étudiants et les lycéens.
Voilà, c'est ça, c'est oui, étudiants et lycéens.
Oui, mais quand même.
Mais c'est énorme, oui. 15% des étudiants et des lycéens pensent que le sida se guérit avec
exactement,
grâce au traitement.
Et 81% ne se font pas dépister lorsqu'ils sont en situation de risque.
Oui, c'est une étude qui a été faite par la SMEREP.
Ouais.
Qui est une mutuelle étudiante, et effectivement, ils ont aussi vu que 43% des étudiants ne mettent pas systématiquement un préservatif lors d'un rapport sexuel.
Ah oui,
Nous avons encore beaucoup de travail.
Faut refaire tout à zéro. Bon, on se revoit à la fin de cette émission en 2024.
Ouais.
Et même 14% n'en portent jamais,
voilà,
de préservatif.
Bon, faut tout recommencer à zéro. Anaïs, bonsoir. Anaïs, t'as encore une question ?
Oui, on avait déjà évoqué le préservatif féminin, mais je voulais savoir s'il était aussi fiable que celui masculin.
Altesse, je vous laisse répondre.
Alors, Stéphanie ?
Il est. Au niveau stabilité ?
Pas de problème.
Pas de problème.
Bon,
c'est tout. Merci.
Au niveau pratique.
C'est compliqué.
Il faut être un peu ingénieur, contorsionniste.
Altesse, c'est comme nous et les après, hommes, quand il a fallu
mais
les
pourquoi
mettre les premières
non,
fois.
C'est quand même vachement plus simple. Hein. Excusez-moi.
C'est une question d'anatomie.
Et après,
mais
il faut
y a
mettre
notice.
La musique fort. Il faut mettre la musique.
Pourquoi ? Parce que ça pique.
Parce qu'il
ça,
y a,
ça fait des bruits bizarres.
Malheur, si tu l'utilises, il faut que
mais
tu fasses.
Mais sinon, au niveau efficacité,
tu veux que je mette un préservatif féminin, moi ?
Tu peux l'utiliser. Oui,
ça
tu
va
peux.
Pas.
Tu peux le mettre, mais non.
Mais il y a une notice quand même avec. Non, oui. C'est un dictionnaire.
Oui. Il faut prendre le coup.
Bon, ça n'a pas marché, Anaïs. Laisse tomber.
Non, mais c'est très fiable.
C'est très très fiable.
C'est très fiable, c'est même.
Mais je veux dire, dans l'urgence, il vaut mieux un préservatif masculin.
Dans l'urgence, je suis d'accord.
Ouais.
faut avoir son temps pour le fumer.
Voilà. Faut faire ça avec
si
un mec bien.
Tu prends trop ton temps, après le mec il est parti, donc t'en as plus besoin. Bon. Donc il vaut mieux prendre un masculin.
Bon, bah tu fais ça avec un mec qui sait mettre les capotes, ce sera plus facile.
Voilà, c'est là, juste la petite anecdote. Monsieur Eschbach me demande de parler de ça parce que c'est notre grand, notre grand différent. Parce que monsieur Eschbach étant un homme, il ne sait pas. Il est très très préservatif féminin. Comme il a pas essayé d'en mettre un.
Il sait pas ce que c'est qu'une femme.
Non, mais paraît-il, moi, on m'a dit que c'était pas plus difficile que de mettre un tampon. Alors je crois, moi.
Oui, mais quand tu l'as dans l'acte avant de pendant l'acte, c'est pas génial, c'est pas glamour, c'est pas super sexe, quoi.
Ben oui, bien sûr. C'est quand même une alternative pour les.
Est-ce que le préservatif masculin, ça peut faire partie de
jeux.
De jeux avec son partenaire, de préliminaires. Préservatif féminin, non, je veux dire, t'es obligé de t'aller t'isoler aux toilettes, quoi.
Faut y aller tout de suite, ouais.
Non, c'est un jeu de mettre un tampon. Génial, merci. Moi, je le mets toute seule dans les toilettes. Non, Hervé, non.
J'ai rien à répondre.
Non, mais il y a ce côté-là aussi. C'est un truc où ça casse le début d'une relation ou d'un rapport.
Ouais, ça casse l'amour, hein. Ça casse
l'ambiance,
l'excitation.
Je pense que c'est quand même important aussi de penser à l'alternative que ça propose pour les femmes, exemple.
Des femmes, je pense qu'il faut très bien se connaître dans un couple pour pouvoir l'utiliser, voilà.
Certainement.
Pour des petits
je suis toute là complètement.
Pour des petits jeunes ou quoi qui ont des rapports ou qui connaissent pas leur mec depuis longtemps, c'est un peu un tue-l'amour quand même.
Bon, t'as compris Anaïs, hein.
Oui.
Donc tu fais ça avec des mecs que tu connais depuis longtemps, d'accord?
Non, mais si vous êtes dans une relation où je sais pas depuis un moment et puis je sais pas, il y a un souci, tu peux parce que ton mec il te connaît bien et tu peux le faire. Et à cet âge-là, ils peuvent pas. Non,
mais c'est sûr qu'il faut bien connaître son corps aussi. Donc, c'est vrai que pour les jeunes filles, c'est pas forcément. Ou alors, ça peut être un bon exercice.
Mais non, ça fait beaucoup de choses. Il faut connaître son corps, il faut lire la notice. Hein. Bon,
c'est beaucoup.
Non, il vaut mieux que tu aies un préservatif sur toi et que même si les mecs, ils pensent que les filles qui ont des préservatifs sur elles, c'est.
Des
maris, couche-toi là, on va pas dire le mot parce qu'on est à la radio. Mais bon, au contraire, vous êtes des filles responsables et c'est à vous de vous prendre en main votre sexualité et votre santé et votre corps. Et donc, c'est à vous de mettre. Si t'as pas de préservatif, tant pis pour toi. Moi, j'en ai un si tu veux. Et voilà.
Voilà. T'as compris, Anaïs?
Oui.
Est-ce que Anaïs
c'est normal que ce soit vous qui décidiez de ce que vous faites ou pas.
Est-ce que tes copines autour de toi, vous avez des préservatifs? C'est quelque chose de facile ou pas?
J'ai quelques amis qui en ont, mais c'est pas généralisé.
D'accord.
Ouais, elles en ont pas. Elle a dit ça, elles n'en ont pas.
Mm-hmm. Non, il y en a qui en ont, mais.
Ouais.
D'accord.
Ouais, puis je sais comment c'est. Elle a dit, je vais pas en mettre maintenant. Voilà, ben non, faut pas. Après, c'est trop tard.
Eh ben voilà, Anaïs, merci. T'as une autre question?
Non,
c'est fini. Elle était costaud. On a le temps. Mais oui, on a Didier Rouault qui est au téléphone. Didier,
qui
directeur de la maison de vie. Didier, mon petit. T'as entendu la conversation?
Oui, j'ai beaucoup ri, mais bon, voilà.
Ouais, t'es content d'être pas là, hein?
Ah oui. C'est un peu compliqué, tout ça.
Bon, alors...
Vous n'êtes pas des filles.
C'est sûr. Il y a toujours eu...
Moi, on me pose une question, on répond. Honnêtement, je ne vais pas commencer à...
Ne relance pas le débat, Didier.
Didier, tu viens d'apprendre un truc, tu n'es pas une fille. Bon, dis-moi, tu devais recevoir le maire de Nice, Christian Estrosi. Il n'est pas venu?
Non, il a eu un empêchement de dernière minute. Le député maire de Nice avait demandé de visiter la maison.
D'accord.
De nous rencontrer, de rencontrer l'équipe. Il a reporté à une autre date, mais il tient à venir visiter la maison. Voilà.
Bah oui, il y a les régionales.
D'une part, on peut l'analyser dans ce contexte, mais c'est aussi une reconnaissance du travail de la maison de vie, et c'est aussi peut-être l'occasion d'évoquer les difficultés que vivent les personnes vivant avec le VIH, dont n'ont pas toujours conscience les décideurs et les élus.
Donc tu vas recevoir Marion Maréchal Le Pen, du coup?
Ça, j'en suis pas
persuadé. Bon. Alors, le documentaire sur la maison de vie est visible le 23 novembre à Monaco, hein. Tu l'as vu,
c'est... Oui, vous venez de le dire, et puis c'est l'actualité de la maison de vie en dehors des séjours qu'on organise au fil des semaines.
Tu es intervenu, toi, récemment avec le documentaire,
oui.
Justement.
On l'a présenté au congrès de la Société française de lutte contre le sida début octobre à Nantes. Il a eu un grand écho. Mmh. On l'a présenté également aux états généraux des élus locaux contre le sida à Paris le 4 novembre. Et surtout, il est repris par pas mal d'associations, de structures dans le cadre soit des journées des patients, soit dans le cadre de Forum Santé. Par exemple, le 28 novembre, il sera au 23e Forum Santé vie à Tours. Et même le 2 décembre, il sera diffusé au cinéma Eldorado de Guyane avec l'association Entraide.
Ah, super, c'est bien ça.
Et pourquoi il est diffusé? C'est parce que c'est un bon support, les personnes ou les associations ont considéré que c'était un bon support pour engager un débat ou des discussions avec les personnes vivant avec le VIH. Parce que, on l'a vu à Monaco, me semble-t-il, très souvent, il rentre en résonance avec ce qu'ont vécu tout ou en partie les personnes touchées. Et donc, il touche énormément les gens qui ont le virus.
Tu l'as proposé à des chaînes de télé?
C'était pas l'objectif principal au départ. Hein, le deal qu'on avait fait avec les résidents pour qu'ils puissent être à visage découvert, c'est qu'ils soient diffusés sur notre site de Monaco, il sera bientôt. Mais peut-être qu'un jour, si les résidents l'acceptent, surtout si les résidents l'acceptent, et si une chaîne le propose, peut-être qu'on pourra le voir sur une chaîne de télévision, mais c'est pas d'actualité aujourd'hui.
D'accord.
C'est important, ça. Ça montre vraiment la priorité pour nous à Fighters Monaco et comme à la Maison de Vie, de respecter vraiment les personnes et de ne pas les pousser à témoigner si elles n'ont pas envie.
Bon, c'est quoi les événements, mon cher Didier, dans les prochains jours, là, à la Maison de Vie? Vous faites quelque chose pour les fêtes de fin d'année?
Pour les fêtes de fin d'année, on a le séjour famille,
oui.
comme d'habitude, qui est complet d'ailleurs. Maintenant, on est sur notre rythme de croisière, puisqu'on est complet sur les 3 mois, à chaque fois sur les 3 mois.
Toujours complet.
Et là, on a reçu 2 séjours associatifs, parce que c'est important aussi de travailler en réseau avec les autres structures, et d'apprendre aussi des autres structures, comme elles ne peuvent pas apprendre de notre expérience. Et donc, on a reçu le réseau Santé Sud Marseille début novembre pour un séjour avec des femmes, sur l'éducation thérapeutique. Et là, on va recevoir à partir de lundi les personnes suivies par l'association Active Santé et avec 13 femmes africaines avec les problématiques spécifiques à la fois des femmes et à la fois les problématiques spécifiques des femmes africaines.
Très intéressant de voir que les autres associations s'approprient finalement la Maison de Vie et mesurent l'impact que vous avez bien présagé, Altesse, et que du coup, il y ait des séjours qui soient faits pour leur public spécifique.
Ça, et non seulement aussi qu'ils aient pris le film comme moyen d'avancer et de faire avancer les personnes vivant avec le VIH. Et je crois que tous nos petits résidents peuvent être très fiers qu'ils aient déclenché ça et qu'ils soient cités en exemple par leur témoignage, qu'ils soient cités en exemple dans plein d'endroits et de congrès. Je crois que c'est beau et c'est bien. Ouais.
Profitons-en pour rappeler et inviter les monégasques, les résidents, les gens autour de Monaco à venir lundi 23 novembre à 19h au Théâtre Princesse Grâce pour pouvoir suivre ce documentaire de 50 minutes.
Alors attention les amis, parce que cela, il nous reste plus beaucoup de temps et c'est Jungle Fight. Donc, écoute, j'ai passé un bon moment avec vous aujourd'hui.
Je peux vous le dire,
avec Stéphanie, avec tout le monde, bravo.
Parce que c'est pas le cas d'habitude.
Vous êtes... Si, mais là, j'avais un peu... Il n'y avait pas Bruno Taillon et pas tout ça. Et puis...
T'étais inquiet.
Et quand même.
J'étais inquiet, en fait.
Je suis un grand inquiet, tu sais bien. Alors tiens, nous accueillons Léo.
Bonsoir,
15 ans. Salut Léo, tu vas bien?
Oui, ça va.
Qu'est-ce que tu veux savoir? T'as écouté tout ce qui s'est passé?
Ah oui, j'ai tout écouté.
T'as appris des trucs quand même?
Pas mal, oui.
Ouais. Il était miné complètement. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
Je voulais savoir s'il y avait des types de rapports qui étaient plus dangereux que d'autres.
De rapports sexuels, bien sûr.
Oui.
Des types de rapports. Alors bon.
Non protégés tous.
Alors là, le spécialiste justement, Hervé Sbac, responsable de
des rapports sexuels. Ouais.
Quelle est la femelle du lévrier, Hervé? La levrette. Bon.
Bravo, Malé. Donc, pour répondre à ta question, Léo, donc, dès qu'il y a pénétration, il y a risque de contamination. Donc, après, il y a effectivement, en fonction de la pénétration, si c'est un rapport bouche-sexe, il y a un risque qui est moins important qu'un rapport vaginal. Et le rapport le plus à risque est le rapport anal. D'accord. Donc, il y a effectivement une classification.
Mais quel est le risque? Fellation, cunnilingus, c'est quoi le risque? 3-4%?
Le cunnilingus, il n'y a pratiquement pas de risque. Et la fellation, très peu de risque, puisqu'il y a quand même contact de muqueuse. Et il y a échange, il y a du liquide, le liquide séminal. Donc, si l'homme est séropositif, peut être contaminant, le liquide séminal.
Et bonne question à 15 ans, lui. Hein, t'as vu?
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre?
J'avais une autre question, c'était savoir si avec la progression des réseaux sociaux du type Tinder, tout ça, des rencontres rapides, s'il n'y avait pas une augmentation de personnes séropositives.
Si, justement.
Sur les réseaux sociaux,
oui. Je pense que c'est certain.
Avec Tinder, en autre.
Mais où est l'amour dans tout ça?
Voilà. Il n'y a pas d'amour, Stéphanie.
Voilà.
N'existe plus.
Nous ne sommes que des bêtes.
Avec des pulsions.
Non, mais c'est vrai. Hein. C'est autant je ne sais pas, on critique les animaux ou les machins, mais là, ces sites-là, des rapports rapides et on ne se revoit plus jamais, je veux dire, c'est pareil. Vous êtes des animaux. Hein. Il y a quand même, je ne sais pas, un rapport, ça doit être quand même quelque chose d'humain, de partagé, de beau. Ce n'est pas juste bestial, l'acte physique. Je pense que c'est... Et c'est dommage que justement ces sites, ils considèrent les rapports. Sexuel comme ça, quoi. On l'a vite comme rapide, du jetable, comme tout dans notre société. Et c'est sûr que ça doit favoriser les IST surtout et forcément le VIH. Mais les IST aussi. Hein.
Plus 70%.
Et on meurt d'IST encore aujourd'hui. Je veux dire, c'est pas juste ça gratte, ça machin. On peut en mourir, quoi.
Il y a une recrudescence, entre autres, de la syphilis. Donc là, encore plus, comme toujours, comme ça a été, ça on le dit,
après, si c'est,
c'est d'utiliser
truc,
un préservatif. Encore plus se protéger. Si jamais il y a un rapport comme ça rapide.
Si on est avec quelqu'un en couple depuis longtemps et qu'on est fidèle, tout ça, si les deux ont fait le test en même temps et qu'ils sont tous les deux non porteurs, est-ce qu'il est toujours nécessaire de porter un préservatif?
Non.
Non, à condition d'être fidèle, bien sûr.
Répondu, bien entendu, si cela fait au moins 3 mois que vous êtes ensemble, que vous êtes dans une relation de confiance et donc et de fidélité, et que tous les deux vous faites le test, que le test est négatif, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de vous protéger. À condition, bien entendu, d'être dans une relation de fidélité. Mais ça devrait être la démarche de tous les couples, parce qu'effectivement, ça éviterait bien des mauvaises surprises.
Voilà.
Merci Léo.
Léo,
et
bien.
Tu as un prénom, ouais. je t'encourage à aller chercher sur Internet. Il y a un film qui s'appelle Léo et qui est justement un très bon film sur le VIH par rapport aux jeunes.
Merci mon cher Léo pour tes bonnes questions.
Mais de rien.
Ouais, il y a le prof Franck Maury qui est prof là aussi au lycée François d'Assise et Nicolas Barraille. Salut. Bravo. Mon cher Franck.
Bonsoir Altesse.
Bonsoir mon cher Patrick. T'as eu des élèves avec des bonnes questions.
Ils sont bien.
Ils sont très très bien posés. Ouais, non c'est vrai.
Je suis toute l'année, mais alors comme ça, quand je les amène à la radio, vraiment, je suis très fier d'eux.
Et vous en parlez après, quand tu as participé à l'émission, vous en parlez après?
Toujours, toujours. Alors, ils en parlent entre eux, on en parle ensemble.
Ouais.
Et ils en parlent avec d'autres sur l'établissement, parce que c'est vrai que dès demain, qu'ils soient contents ou non, d'ailleurs, on va avoir les photos du direct de l'émission.
Et puis ils écoutent,
dans le hall de
l'établissement. Ils écoutent les autres.
Il y a des étudiants, il y a des élèves qui bien sûr écoutent. Et on a évidemment un retour avec eux le lendemain, une discussion avec ceux qui étaient là, ceux qui n'étaient pas là.
Léo, tu vas être une star demain.
Ah, il y a des chances.
Ouais. Ouais, je pense aussi. Ouais.
Non, mais c'est important parce que justement, il y a des jeunes, ils n'ont peut-être pas un endroit ou quelqu'un qui pose des questions. Donc, si on arrive à nous en former plusieurs et à répondre à leurs questions, ils peuvent après, eux, répondre à des questions.
C'est ce qui est génial dans cette émission. Ouais. C'est qu'on a beaucoup parlé de moyens, entre guillemets, mécaniques de prévention. On a beaucoup parlé du préservatif masculin, féminin, d'ailleurs, aussi. Et ce qui est génial avec FightEdz et avec l'émission Jungle Fight, c'est qu'on c'est aussi un super moyen d'info et d'éducation au travers des questions des jeunes. C'est, voilà, parce que finalement, les autres moyens de prévention ne seraient pas grand-chose sans l'éducation qui va avec. Quoi. Je crois qu'il y a un vrai besoin, un vrai peut-être manque parfois d'éducation. Et voilà, j'espère que tous les auditeurs ce soir ont pu entendre ça. Parce que,
tout
voilà,
à fait. Bon,
c'est génial. Quoi.
Oui.
Mais c'est après, c'est aux jeunes d'éduquer les parents, surtout.
Et FANB va être certainement avec nous encore pour le 1er décembre, puisque nous avons un prochain rendez-vous où vous serez certainement présent et vous emmènerez une courte pointe pour, comme chaque année.
Alors, à minima la courte pointe. Et puis voilà, tout ce qui est projet, c'est vrai que ça fait plusieurs années que dès qu'on peut collaborer sur ces belles actions du 1er décembre, on le fait volontiers parce qu'il y a, encore une fois, il y a un besoin énorme de sensibilisation et de prévention sur la maladie.
Ouais,
et
avec parlant des courtes pointes, justement.
Alors justement, avec Élodie, les courtes pointes, il faut juste rappeler, c'est quoi le déploiement des courtes pointes? C'est un hommage aux personnes disparues du sida.
C'est ça.
Ça va se passer où?
Au musée scénographique, à 13h, vendredi 27 novembre. Et ce sera des courtes pointes qui seront déployées au musée scénographique. Et il y en aura une nouvelle, d'ailleurs, cette année, qui a été réalisée tout au long de l'année. Donc,
par des affiliés, et il y a donc une courte pointe qui reprend 8 hommages à une personne décédée. En l'occurrence, là, il y en a 3 pour Chantal, qui est une affiliée qui est décédée cette année, à qui beaucoup de personnes ont voulu rendre hommage.
Venez vous faire dépister, Test in the City, mercredi 25 novembre, où ça?
Sur le parvis de la galerie marchande de Carrefour.
De Carrefour à Monaco. Mmh. Et lundi 23 novembre, et ben voilà.
Et le 27 novembre à 13h au musée scénographique, le déploiement des courtes pointes.
Voilà.
Et ben voilà.
Juste une pensée pour nos amis du Burundi qui traversent une période très difficile de conflictuel, et nous avons là-bas des amis avec qui nous travaillons auprès des personnes vivant avec le VIH, et une pensée pour eux.
Merci mon cher Hervé, merci Franck, merci aux lycéens bien sûr qui est avec nous pour cette grande émission. Merci mon cher Franck, et surtout merci la princesse Stéphanie. Applaudissements s'il vous plaît. Vous avez été formidable ce soir. Formidable, j'ai appris plein de choses. À bientôt. Salut Stéphanie.